comme les quelques pixels. Je suis le ravestique, mon jeu est fantastique.
Appelez-moi
C'est l'histoire du jeu qui fait rêver les cliqueurs de tous les âges tout en les empêchant de dormir. Voici le champion des labyrinthes en trois dimensions qui inspira plus d'un éditeur. Mais qu'est-ce qui les fait donc courir inlassablement dans ces couloirs obscurs? Doom est né il y a 3 ans chez ID Software. D'un naturel un peu remuant, le petit Doom entreprit aussitôt la conquête du cybermonde en commençant par vendre des milliers de disquettes PC à bon prix, puis en envahissant les centres serveurs. Ce fut un choc! Des millions de machines de par le monde se mirent à croquer du Doom, les réseaux informatiques des entreprises comme les ordinateurs domestiques furent contaminés et on se bousculait derrière leurs claviers. Tout le monde voulait en découdre! Cette entrée fracassante du pistolero du futur fut rapidement suivie par un CD-ROM PC, puis par les jeux consoles. D'abord la puissante Jaguar de chez Atari, ensuite la Mega Drive 32X de Sega avec une version explosive. Et comme les guerriers virtuels ne se reposent jamais, Doom devint Doom 2 puis Ultimate Doom, toujours sur PC mais aussi sur Mac. Il y eut même quelques clones et qui, par l'odeur alléchée, tentèrent de reprendre le flambeau. Le Dark Forces par exemple, puis les récents Marathon 1 et 2, ou encore les Space Hulk et Killing the Blood. Mais les puristes vous le diront bien, rien ne vaut un bon vrai Doom. Aujourd'hui, après avoir conquis la Super Nintendo, Doom s'attaque à la PlayStation de Sony avec les versions 1 et 2 compilées sur le même CD. Un événement dans la carrière de cet arpenteur de labyrinthe 3D.
C'est l'équipe de William Entertainment qui a développé cette version. Nous sommes absolument en extase devant la qualité. Ça, c'est le genre d'effet qu'on ne pouvait jamais réaliser dans la version originale de Doom. La version PC de Doom. Il n'y a rien de mieux. Ça, c'est Doom, la meilleure version de Doom qui existe.
C'est un jeu d'aventure qui se distingue parce qu'il n'est pas de l'heroic fantasy, ce n'est pas de la science-fiction. Ce que je voulais faire, c'était trouver un univers qui permettait un certain type de jeu avec une certaine ambiance, quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas déjà vu 100 fois. Si tu joues à Atlantis, tu vas te mettre dans la peau d'un jeune homme qui s'appelle Seth, qui est Atlante, donc citoyen de cette île avec un volcan. Tu vas rejoindre les compagnons de la reine. Cette île a une reine, mais tu vas très vite apprendre qu'elle a disparu. Et ta première quête sera de la retrouver. Ça va t'emmener très loin, tu vas devoir voyager. Tu vas voyager en bateau volant, mu par une énergie cristalline.
Nous avons créé l'Omni 3D pour nous permettre de nous balader de façon complètement libre dans différents lieux. C'est un système qui nous permet de jouer un jeu d'aventure avec un réalisme et une liberté qu'on n'a jamais connue avant sur ce type de jeu. C'est un principe qui nous permet à la fois de voir tous les détails qui nous entourent et de nous déplacer. L'Omni 3D nous permet aussi de voir des paysages, déjà des paysages extérieurs qui ne sont pas très habituels dans le jeu. Là par exemple sur Atlantis, c'est une île qui fait 10 km sur 10 km, dont on peut visiter une très grande partie. Et toute cette partie a été modélisée en un seul tenant pour qu'à la fois ça soit tout à fait visible, un objet qui soit une centaine de mètres, qu'un objet qui soit à 10 cm de nous, avec la même qualité. On n'a pas arrêté d'améliorer notre système de mode 3D pour lui permettre, en plus du déplacement dans toutes les directions, d'afficher des animations à l'intérieur, qui peuvent être des animations de personnages, des animations d'objets. On a aussi développé l'OmniSync, qui est tout un système très complexe pour faire parler les personnages dans le jeu.
Some say His Highness will rule if the Queen isn't found.
What's your name?
L'interface elle se compose de plusieurs éléments. Un curseur souris qui est réactif et qui réagit justement en fonction des actions qu'on peut faire. Parler avec un personnage.
You know Garcelos?
Prendre un objet, etc.
Arrivé sur nos écrans avec Karateka de Broderbund, le jeu de baston devient vite l'une des disciplines majeures du jeu vidéo. Les capacités plus que moyennes des micros de l'époque limitent longtemps le genre au beat'em all, jeu de progression où l'on affronte des légions de sous-fifres avant de se mesurer à leur boss plus rapide, plus résistant et plus hargneux. Le jeu à deux doit attendre un peu plus longtemps et connaît son heure de gloire sur les consoles 16 bits avec Street Fighter 2 et Mortal Kombat qui connaîtront de nombreuses suites. L'arrivée des 32 bits offre au genre la troisième dimension avec des titres tels que Virtua Fighter, Tekken et Toshinden qui motiveront l'achat de plus d'une Saturn ou PlayStation. La 2D, quant à elle, n'est pas en reste et des éditeurs tels que Capcom ou SNK font du combat bitmap un feu d'artifice d'effets spéciaux et de coups spectaculaires. De la boule de feu contre technique de la menthe religieuse, alors 2D ou 3D?
Au niveau jouabilité, la 2D, on enchaîne plus de coups et on arrive de temps en temps à sortir des coups par hasard, des coups spéciaux, ce qui rajoute un petit côté spectaculaire au jeu. Mais sinon, au niveau réalisation, la 3D, c'est le bonheur. C'est des textures qui bougent, les vêtements, des changements de plan. Et le replay, c'est l'option de bonheur.
You win.
Skidor.
Fighter 96, ben c'est la quintessence du jeu de baston, c'est le dernier effort de SNK en la matière. Ça propose 30 personnages qu'on peut faire jouer en tournante, donc un choix de composition d'au moins 2000 équipes. C'est plus de coups spéciaux, plus de coups violents, plus de finish, plus d'animation et plus, voilà. Bien, c'est ce genre de choses. Et à côté de ça, pour la 3D, la même émulation existe entre Namco, qui fait Tekken, et Sega, qui nous a apporté toute la saga de Virtua Fighter. La vraie console, la Rolls pour les jeux de baston, c'est la Neo Geo, puisqu'on a droit à l'adaptation exacte, au point près, c'est le même programme qu'en arcade.
Et depuis
6 mètres corps et âme, que ce soit sa passion, vouloir devenir le meilleur, affronter le plus de personnes possible et étudier le jeu le plus possible.
En 1977, le monde découvre la magie de la guerre des étoiles et le génie de George Lucas. 1997, les fans de la première heure et les victimes de demain découvrent ou redécouvrent dans une version magnifiquement reliftée le premier chapitre de la trilogie rebaptisée Un Nouvel Espoir.
La trilogie Star Wars, édition spéciale.
La plus formidable saga du cinéma de science-fiction fait peau neuve pour le 21e siècle. MicroKids a dépêché ses chasseurs de primes aux quatre coins de l'univers pour vous rapporter les dernières infos sur le futur ludique et cinématographique de l'univers de la guerre des étoiles, avec en exclusivité les images de X-Wing vs. TIE Fighter et de Jedi Knight, Dark Force 1. Mais le phénomène Star Wars, c'est aussi les jeux vidéo. Dès 1990, LucasArts entre dans l'effort de guerre du revival Star Wars et s'essaie aux jeux de plateforme sur NES, Super NES et même Game Boy. La puissance indécente des 386 de l'époque autorise le premier simulateur de vol en 3D tiré de la saga. X-Wing sera suivi de TIE Fighter. Puis le CD-ROM vient au PC et Lucasfilm sera un des premiers à explorer ce nouveau média avec Rebel Assault. 1995, LucasArts sacrifie au Doom-like avec Dark Forces, où l'on shoot les méchants de l'Empire dans un environnement 3D. 1996, c'est l'année de l'alliance avec Nintendo, pour qui Shadow of the Empire sera un des grands titres du lancement de la 64. Chose promise, chose due, MicroKids vous présente en avant-première les images des deux produits phares de l'actu ludique Star Wars, X-Wing vs. TIE Fighter et Dark Forces 2 Jedi Knight. X-Wing vs. TIE Fighter sera le premier simulateur de combat spatial multijoueur. Bénéficiant de graphismes 3D haute résolution et de textures tirées des films, il permettra à 10 joueurs en réseau de s'affronter aux commandes des différents vaisseaux de la saga. Empire ou Rébellion, choisissez votre camp, Flicker. Dark Forces 2 nous permet de retrouver le héros premier du nom dans son apprentissage de la force et son entraînement de Jedi. La haute résolution est de rigueur pour ce Doom-like de luxe, entrecoupé de somptueuses vidéos. N'oubliez pas, jeune Jedi, plus rapide, plus séduisant est le côté obscur, mais la rébellion a besoin de vous.
Rejoins-moi.
ton destin.
Dans Wing Commander 4, les acteurs principaux sont les mêmes que dans l'épisode 3. Ainsi, Mark Hamill, célèbre Luke Skywalker dans Star Wars, interprète le rôle du héros, le capitaine Blair.
Je trouve magnifique que l'équipe d'origine ait décidé de ne pas refaire tout simplement un autre combat dans l'espace. Cela avait été déjà fait dans Wing Commander 3. Wing Commander 4 est vraiment novateur. Et je pense que c'est en ça que c'est une suite intéressante. C'est le fait d'explorer de nouveaux terrains, de ne pas refaire ce qui a été fait auparavant.
Plus question ici de limiter le jeu à de simples combats spatiaux. Ici, on mise sur la qualité du jeu des comédiens et sur l'intrigue. Le joueur doit mener son enquête pour découvrir celui qui essaie de détruire la paix et d'installer le chaos à nouveau. Pour ce nouvel épisode, les moyens techniques mis en œuvre sont énormes. C'est à grand renfort d'effets spéciaux que l'équipe du jeu espère bien augmenter la tension et l'ambiance. Pas moins de 300 comédiens et figurants pour les 38 séquences cinématiques qui agrémentent ce jeu. Sans oublier une prestigieuse distribution pour les rôles principaux.
Parfois, quand je vais au supermarché, les gens me disent « Hey, Edmund Tolwyn !» Je leur réponds « Excusez-moi, je ne suis pas de service. » Vous savez, on oublie parfois, c'est tellement bizarre.
Let's hope that war is not our only option.
John Reese Davies.
Declaration of war against the border worlds has been laid before the assembly.
And Tom Wilson as maniac.
Et tout ce petit monde se prend bien au jeu.
All of this coming to?
J'adore Wing Commander parce que c'est vraiment amusant. Aux yeux des copains de mon fils, je suis un grand héros. Ils disent toujours « Oh, c'est lui ton père !» car ils jouent tous au jeu. Alors là, c'est magnifique lorsqu'ils me voient, ils disent « Salut, Capitaine Blair !»
The battle is waged not only for control of the Confederation, but its very soul.
La mise en œuvre de ce type de production demande beaucoup de moyens, de temps et d'argent. On n'insère plus des personnages dans un environnement exclusivement fabriqué en images de synthèse. Les comédiens jouent la quasi-totalité des scènes du jeu dans de véritables décors. La synthèse n'intervient que ponctuellement et est intégrée en incrustation sur fond bleu. Le jeu devient alors une véritable production cinématographique interactive avec tout ce que cela comporte. Studio de tournage, multiples plateaux, décors, effets spéciaux.
Je veux dire, je m'amuse parce que les choses changent toujours. Maintenant, on tourne un vrai film. On bouge les caméras, on joue de vraies scènes. Et pour moi, c'est toujours nouveau. J'apprends toujours plus, vous savez, car finalement, je dirige la mise en scène d'un film tout en faisant un jeu. Et c'est en quelque sorte une autre œuvre d'art.
Wing Commander 4, the fate of mankind rests with you.
Fade to Black. Suite du ô combien célèbre flashback de Electronic Arts sur PC CD-ROM est enfin disponible pour notre plus grande joie. Quel jeu du grand art! Perdu au fin fond du cosmos, Conrad sommeille désormais depuis plus de 50 ans. Qui eût cru qu'un jour, d'une léthargie aussi profonde, il se réveillerait à nouveau entre les griffes de ses pires ennemis, les Morphs? Conrad parviendra-t-il à s'enfuir du terrible pénitencier de Moon Alcatraz? Et voilà de nouveau dans la peau de Conrad. Et cette fois-ci, c'est encore plus dur. Mais pas de panique, tu n'es pas seul. Un autre détenu te viendra régulièrement en aide. Pour s'en sortir, rien de plus simple. Si on peut dire, il te faut résoudre toutes les énigmes qui te sont posées, défendre chèrement ta peau face aux ignobles Morphs, et surtout, surtout ne jamais perdre ton sang-froid. Telles sont les conditions pour survivre le plus longtemps possible dans le monde cruel de Fade to Black. Méfie-toi aussi des humains que tu peux rencontrer. Certains à blouse blanche ne sont pas si blancs que cela. La réalisation de ce jeu tient du génie. Que dis-je, non, d'un cliquetis, ne mâchons pas les mots. On peut parler de prodige. Ici, tous les ingrédients sont réunis pour envoûter, séduire le joueur. C'est beau, c'est plein d'inventions et de petits trucs qui accrochent tout de suite.
Et suprême cadeau, attention les yeux, c'est tout en 3D. 18 sur 20 candidats pour le clic d'or.
Le héros du jeu de combat, c'est un héros immédiat. C'est pas tout à fait un héros, c'est d'abord une action. Et donc c'est en quelque sorte une prolongation qui permet effectivement de frapper sans frapper réellement, d'exterminer sans exterminer réellement. Alors les héros de demain, comment seront-ils ? Ben, on peut imaginer qu'on risque de concilier l'intelligence d'hier et la force d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, ni justicier, ni héros, peut-être demi-dieu.
Lands of Lore est un jeu de rôle avec près de 3 heures d'images de synthèse absolument sublime. 3 ans de développement dans les studios de Westwood, véritable ruche où les dernières technologies côtoient 100 créateurs de génie. Une équipe qui met un point d'honneur à donner le meilleur au plus grand nombre et qui promet avec Lands of Lore un jeu de rôle accessible aux joueurs non chevronnés. C'est parti pour plus de 6 minutes d'avant-première pour découvrir les jeux de la rentrée et les tendances de cet automne. On démarre plein gaz avec Wipeout 2097 sur PC et PlayStation, version turbo-boostée de Wipeout. Né d'une technologie encore plus pointue, c'est plus de circuits, des vaisseaux supplémentaires avec un arsenal stratégique tout neuf, des graphismes encore plus fluides. Toujours sur PlayStation et PC, toujours pour les amateurs de vitesse, Destruction Derby 2. Les éditeurs misent sur les valeurs sûres cette année en sortant des versions optimisées. Entrée, les jeux Lucas arrivent sur console 32 bits. Plusieurs titres de la saga de la guerre des étoiles sont prévus pour le quatrième trimestre 96 sur PlayStation. Mais oui, mais oui! Tout d'abord, le célèbre Rebel Assault 2, l'un des titres les plus vendus sur PC, tout en 3D avec des séquences vidéo très réalistes. Sans oublier Dark Forces, où vous avez pour mission de détruire le Dark Trooper, une arme redoutable mise au point par l'Empire. Ça va faire mal, très très mal. Possesseur de PC se rassure, Windows 95 et sa technologie 32 bits ouvrent de nouveaux horizons. Avec le MMX et PowerVR, votre PC se transforme en une machine d'arcade redoutablement efficace. Dès la fin de l'année 96, la nouvelle génération de processeurs Pentium MMX sera disponible en bundle avec Pod, un jeu de course futuriste, où le prix à gagner n'est autre que la survie. La technologie MMX optimise l'ensemble du traitement de la 3D à la vidéo. Ça va plus vite, c'est plus fluide, il y a plus de couleurs. Attention, avec la carte accélératrice 3D Power VR, Rave Racer, le titre arcade suite de Ridge Racer, tourne 4 fois plus vite que Ridge Racer sur PlayStation, même sur un Pentium 133 avec une simple carte VGA. Et elle sera disponible à la rentrée en bundle avec 5 titres et coûtera moins de 1000 francs. Je suis en mission spéciale à l'E3, le plus grand show multimédia qui a eu lieu du 16 au 18 mai à Los Angeles. Et pour voir toutes les news du Video Games, tous les grands du jeu étaient là. Un show made in America de plusieurs millions de dollars, plus de 400 exposants, des stands de 1800 mètres carrés et près de 1700 nouveaux titres. Oh, ils sont crazy, ces Américains. Et en avant-première mondiale, sur le plus grand stand du salon, la présentation de l'Ultra 64, qui s'appellera finalement la Nintendo 64 bits.
It's great, it's,
C'est géant. C'est très réaliste. On croirait être dans le jeu. On peut voir l'action de plein d'angles différents. Et cela ne ressemble à aucune autre machine.
On a fait tellement de tapage autour de la 64 qu'on se demandait ce qui est vraiment un gouffre technologique entre la Nintendo 64 et les Saturn et PlayStation. Et c'est pas le cas.
Quant à vous, il vous faudra attendre Noël pour juger, et oui. Et puis, la PlayStation est toujours là, hein. C'était même la machine la plus présente sur le salon, avec presque 80 nouveaux jeux, 30 rien que sur le stand Sony. Et si les trophées de l'E3 existaient, le grand jury Dr. Click aurait attribué un prix spécial à Crash Bandicoot, juste derrière Mario 64. J'en parlais justement avec Miyamoto, vous savez, le créateur de Mario.
Notre objectif était de créer un univers 3D qui serait très réaliste et qui donnerait au joueur l'impression qu'il est dans un monde imaginé, mais réel. Un monde de cartoon, malgré tout, avec des détails réalistes, des décors, une qualité surréaliste et des personnages animés qui ont beaucoup de personnalité. Je pense que l'action est réaliste. Il y a beaucoup de niveaux, les graphismes sont fantastiques et le jeu a une très bonne jouabilité.
Avec Wipeout, XL, Psygnosis lance la deuxième génération des jeux 32 bits, une nouvelle technologie qui permet plus de circuits, plus de rapidité, plus de maniabilité.
J'adore les jeux de simulation et Formula One est un des meilleurs. Très beau, très réaliste, avec des graphismes spectaculaires.
Et on en reparlera très prochainement. Toujours chez Psygnosis, Andrew Spencer présentait la suite d'Extatica. Alors Andrew, quoi de neuf ?
Les graphismes sont plus pointus, les personnages sont composés de plus de polygones, l'animation aussi est plus réaliste, l'univers est environ 10 fois plus grand et il y aura beaucoup plus d'action que dans la première version.
Dans la série des géants du jeu, Sega et les derniers titres Saturn Virtual Cop 2 et Panzer Dragoon qui sera dans le Cyberzoom tout à l'heure, à ne pas rater. Sonic, le célèbre hérisson bleu reprend du service, pas nouveau, mais super fun, et ça sort avec un joystick spécial. Il faudra voir cela de plus près. Réalisé par Yuki Naka, le père de Sonic, Knight, avec une vraie 3D.
Quelles sont les choses à pas rater? Il y a toujours Heart of Darkness, le jeu préparé par Amazing Studio, Eric Chahi, Frédéric Savoie, qui ont bossé sur Another World et sur Flashback. Ils ont concocté une petite merveille.
J'arrive.
Partez à l'aventure. Dans un royaume mystérieux, un monde de magie et d'aventure.
Une création et un développement 100% made in France, s'il vous plaît.
Si on prend les grosses majors américaines dans les jeux vidéo que tout le monde connaît, c'est vrai qu'ils ont tendance maintenant à faire des jeux qui se veulent hyper grand public, qui sont plutôt designés par le marketing plutôt que par des joueurs. Alors que quand on prend une société comme celle avec qui on travaille, Activision, qui est une petite société, ils sont comme nous, ils veulent d'abord mettre la jouabilité en avant. C'est relativement unique à la France, mais aussi, je pense, à l'Europe en général.
Et pour preuve, Iron Flux, développé par Cryo, la cité des enfants perdus par Psygnosis France, sous la direction artistique de Monsieur Caro lui-même. Dark Earth, par Minscape Bordeaux, un jeu d'aventure fiction qui vous plonge dans un univers absolument indément, avec des graphismes et une animation rarement égalés.
Et puis, il y a aussi les jeux de LucasArts, Jedi Knight sur PC CD-ROM est vraiment fabuleux.
Nous avons conçu un nouveau moteur pour Jedi Knight qui permet d'évoluer dans un monde tout en 3D. Vous pourrez vraiment regarder en haut comme en bas. Dans Dark Forces, c'était la 3D de la première génération, pas une 3D absolue comme ici.
Tout à fait, Brett. Sans oublier qu'il y aura 21 niveaux et une option multijoueur. On ne fatigue pas, ce n'est pas fini.
Lands of Lore est une nouvelle étape dans l'expérience des jeux de rôle et d'aventure. C'est un environnement, un univers dans lequel on peut s'échapper. Il y a près de 3 heures d'images de synthèse plein cadre, 640 par 480, et 256 images de synthèse couleur qui sont absolument magnifiques.
Dans la série, je suis de mauvaise humeur. Quake fera très fort sur vos PC. Encore un coup de ID Software à qui l'on doit déjà la série des Doom. C'est une réalisation à vous couper le clic. Mais le ticket d'entrée n'est pas donné à tout le monde. Avec un 486DX, vous n'avez qu'une petite résolution. Il vaut mieux un Pentium 150 et une bonne capacité mémoire sur votre carte graphique si vous voulez afficher une résolution Super VGA en 1024 par 768 points et avoir un jeu fluide. Le scénario, toujours aussi primaire, mais la recette est efficace. 4 niveaux composés de 7 tableaux chacun et pas une minute de répit. La sauce tomatique à profusion et certaines têtes volent très très bien. Faites donc attention de ne pas perdre la vôtre. Vous en avez besoin pour comprendre les mécanismes à déclencher pour progresser. Ah, n'oubliez surtout pas les passages secrets. Hein. Deux innovations essentielles apparaissent dans Quake par rapport au Doom et autres Duke Nukem. Les personnages, tout d'abord. Ils sont réalisés en véritable 3D polygonale et bénéficient d'une intelligence artificielle qui leur permet de réagir chacun de manière totalement autonome. Ne vous étonnez pas d'en croiser certains qui se battent entre eux, tandis que d'autres vous ignorent, hein. Enfin, jusqu'à ce que vous veniez les chatouiller.
La seconde innovation tient à une fonction zoom toute nouvelle. Vous observez votre ennemi à bonne distance avant de le prendre gentiment en traître. Plus d'excuses, désormais si vous êtes myope, un petit coup de zoom et vous ne ratez plus vos ennemis. Génial, non? Vous disposez bien sûr d'une nouvelle panoplie d'armes indispensables à tout Quaker qui se respecte. Cela va de la hache au bazooka, en passant par le canon électrique et le lance-grenade. Pas de pitié.